Vous êtes sur RTL. Attends. RTL Matin.
Stéphane Carpentier.
8h RTL, c'est Agnès Bonfillon qui vous informe et vous dit tout. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et d'abord direction les Cévennes. Il se cachait depuis plus de 3 jours. Le fugitif a fini par se rendre.
Et hier soir, en début de soirée, Valentin Marcon, suspecté d'avoir tué son patron ainsi qu'un de ses collègues, est allé de lui-même à la rencontre des gendarmes. Bonjour Pierre Collat.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes dans le village des Plantiers pour RTL. On présentait ce père de famille de 29 ans comme lourdement armé, imprévisible, dangereux depuis mardi. Ce n'est pas exactement cet homme que les forces de l'ordre ont vu arriver hier.
Non, en effet, l'homme est arrivé devant les gendarmes complètement hagard, dans un état d'extrême faiblesse après 4 jours passés dehors. Il a quitté sa cachette aux alentours de 19h hier et s'est rendu à la première patrouille des forces de l'ordre qu'il a croisé. Il n'était pas armé. Pendant son interpellation, il a répété à plusieurs reprises « Excusez-moi, je me rends ».
Le village a vécu 3 jours coupés de tout, Pierre, avec une très grosse angoisse pour les habitants. Alors forcément, ce matin, on imagine le soulagement.
Oui, on respire de nouveau dans ce village d'un peu plus de 200 habitants. Seule une voiture de gendarmerie témoigne encore du drame qui s'est joué ici depuis mardi. Je vous propose d'écouter Alain, résident de la maison de retraite, une des rares personnes à se balader ce matin.
Hier, je suis sorti, je suis allé jusqu'au terrain de pétanque. Il y avait tous les gendarmes et tout. Et après, je suis remonté tranquille. Et là, aujourd'hui, l'épicier, il ouvre. On est content aussi de pouvoir aller acheter quelques friandises.
Et la réouverture de l'épicerie aujourd'hui, ce sera le symbole d'un retour à une vie à peu près normale, ici, au Plantier.
Merci beaucoup, Pierre Collat, en direct des Cévennes pour RTL.
Et à 9h20 tout à l'heure, nous ouvrirons une longue page spéciale consacrée à cette traque hors norme qui a donc duré près de 4 jours. Nous serons en ligne avec le maire des Plantiers, Bernard Mounier, qui sera avec nous, et aussi avec le patron du GIGN, les super gendarmes. Il participera donc à cette page spéciale tout à l'heure à partir de 9h20. L'autre grand titre de ce matin, Agnès, c'est la mort d'une adolescente de 17 ans dans le Val-de-Marne.
Les secours n'ont rien pu faire pour sauver Marjorie. Les faits se sont déroulés dans la cité Hoche à Ivry-sur-Seine. Le suspect est encore plus jeune que la victime, 15 ans à peine. Il est actuellement entendu par les enquêteurs. En fait, tout serait parti d'un différend sur les réseaux sociaux. Pour RTL, Gauthier de Lombugard, vous vous êtes rendu sur les lieux quelques instants après le meurtre.
Une grande tente est dressée au pied de la tour numéro 5. La toile blanche recouvre le corps de Marjorie. Autour, les habitants de la cité observent hagard le travail des hommes de la police judiciaire.
Elle est là, couchée par terre.
Un silence rompu par la douleur de la maman de la victime.
Il m'a enlevé la vie de ma fille. Pourquoi ?
Odile s'accroche au bras de l'une de ses filles pour venir parler devant les micros et les caméras.
Et c'est un enfant qui l'a tué. Ce n'était même pas un adulte. Elle a voulu seulement défendre sa sœur.
Quelques heures plus tôt, Marjorie, 17 ans, s'interpose entre sa petite sœur et un jeune du quartier. Les deux collégiens s'étaient donné rendez-vous en bas de l'immeuble pour s'expliquer après un différend sur les réseaux sociaux.
Le garçon, il est parti chez lui. Il est parti récupérer un couteau et il l'a poignardé en plein cœur. Je l'ai vu par terre, ensanglanté, dans une mare de sang. Ils n'ont pas réussi à la réanimer. Ma fille, c'était pas une délinquante. Ma fille, c'était une acharnée des études. Elle devait passer son bac pour être ingénieure.
On a ôté la vie de ma sœur pour rien.
C'était pas un règlement de compte.
Pas de la drogue.
C'était pas de la drogue.
Elle n'était pas dans un gang. Elle n'était pas dans tout
c'était
ça.
C'était une étudiante.
Voilà.
Il faut que ça s'arrête.
Vous croyez où, les jeunes ? Vous n'êtes pas fatigués d'endeuiller des familles ? Vous n'êtes pas fatigués d'ôter des vies ? Vous croyez qu'on est où ? Dans un Far West ?
Il faut que les parents se ressaisissent. Arrêtez de laisser vos enfants traîner dans les cités. Arrêtez de faire de vos enfants des délinquants. Aujourd'hui, c'est ma fille. Demain, ça sera les vôtres.
L'auteur présumé du coup de couteau, Alvin, 15 ans, qui avait pris la fuite, a été interpellé dans la soirée.
Le reportage de Gauthier Delombugard. Ce matin, le policier grièvement blessé par le tir d'un projectile dans la Loire est toujours dans le coma, dans un état grave. Le ou les auteurs de l'agression n'ont pas encore été identifiés.
La suite de l'actualité sur RTL à 8h04. Malgré les appels au calme de la communauté internationale, l'escalade se poursuit au Proche-Orient.
Alors que de nouveaux raids aériens ont lieu sur la bande de Gaza, des affrontements ont également éclaté en Cisjordanie ces dernières heures. Cette fois, l'armée israélienne a tiré à balles réelles. Plusieurs manifestations en soutien aux Palestiniens sont organisées un peu partout en France. À Paris, il n'est vraiment pas certain qu'elles puissent avoir lieu. Sur demande du gouvernement, la préfecture l'a interdite. Le tribunal administratif a suivi, mais les organisateurs ont décidé de faire appel devant le Conseil d'État. L'association des Palestiniens en Île-de-France fait partie de ces organisateurs. Écoutez son avocat, Maître Seven Guesguez.
On estime aujourd'hui en France qu'à partir du moment où on soutient la Palestine, on serait foncièrement antisémite. C'est très grave, puisque je connais les organisateurs. Bien au contraire, ils s'opposent à toute forme d'antisémitisme, mais ils sont là pour quand même rappeler une situation qui est objective. En Palestine, on a des innocents qui sont tués, et l'objectif de la manifestation qui était prévue, c'est évidemment de souligner cette situation injuste. Et je voudrais quand même rappeler qu'on est la seule démocratie du monde européen à interdire une telle manifestation.
Des propos recueillis par Alice Moreno pour RTL. À Marseille, pas de manifestation. En revanche, un rassemblement statique est autorisé demain par la préfecture. Ce samedi, c'est dans plusieurs autres villes que des appels à soutenir le peuple palestinien sont lancés. Hier, ça s'est plutôt mal terminé à Copenhague, au Danemark. Devant l'ambassade d'Israël, des violences ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. 3 personnes ont été arrêtées.
Vous restez bien là, Agnès Bonfils. On revient dans un instant pour la suite de l'actualité avec un nouveau seuil qui devrait être franchi dans la campagne vaccinale. Ce soir, 20 millions de Français auront reçu au moins une première injection. A tout de suite.
RTL Matin. RTL Matin. Stéphane Carpentier.
Et Agnès Bonfillon, la suite du journal à 8h08. Selon le ministre de la Santé, aucun doute, dès aujourd'hui, 20 millions de Français auront reçu au moins une première dose de vaccin.
Et d'ailleurs, Olivier Véran se félicite de l'accélération de la campagne vaccinale. Jean Castex, le Premier ministre, lui, appelle à ne rien lâcher, car beaucoup de doses arrivent en juin. Et justement, c'est dans un mois, tout pile le 15 juin, que tous les Français de plus de 18 ans pourront se faire vacciner sans aucune condition, dit le Pouget.
Oui, à cette date, 30 millions de Français devraient avoir reçu leur première dose, selon les prévisions du ministère de la Santé. Ce qui sous-entend de vacciner 2,5 millions de Français par semaine. On devrait y parvenir en temps et en heure. D'abord, la cadence s'accélère. Des injections en augmentation de plus de 10% d'une semaine sur l'autre. Des centres de plus en plus nombreux à ouvrir, week-end et jours fériés. 850 seront ainsi à pied d'œuvre aujourd'hui en plein pont de l'Ascension sur les 1,800 au total de l'Hexagone. Autre accélérateur, des livraisons de vaccins massives. 47 millions de doses de Pfizer attendues en juin, contre moitié moins ce mois-ci. Enfin, le déploiement du vaccin Moderna chez les généralistes et les pharmaciens à partir du 24 mai. Cela va permettre à plus de gens de se faire vacciner plus facilement près de chez eux.
Les précisions d'Odile Pouget. Sachez que dans le même temps, le nombre de malades du Covid en réanimation poursuit sa baisse et passe en dessous des 4400.
Accélération de la cadence vaccinale et dans 4 jours, Agnès, la réouverture des terrasses, des musées, mais aussi des cinémas.
Vous le savez, jusqu'au jour J, RTL vous fait vivre ces préparatifs. Mercredi matin, vous l'avez peut-être entendu, Joël Salzy, patron des Fingles en bouchon lyonnais. Il était un peu chafouin, car avec le protocole sanitaire, il ne pouvait servir que 11 clients par service. Le gouvernement a finalement autorisé les petits restaurants comme le sien à aller jusqu'à 100% de remplissage à condition de bien séparer les tables. Bonjour Raphaël Vontard.
Bonjour.
On vous suit, enfin on suit surtout Joël, hein, en pleine installation du coup.
Avec la pluie qui s'invite, c'est pas vraiment le jour pour le faire, mais Joël et sa femme Julie ont besoin de voir, d'essayer leur terrasse de leur bouchon lyonnais pour voir ce que ça va donner avec la réouverture dans quelques jours.
Bon, les chaises n'ont pas rouillé, elles. C'est déjà un bon truc. Bah, c'est parti, hein.
On va en mettre 3, là on va en mettre 4.
Là on va essayer avec les 6 couverts. Après, il faut faire un laisser de passage pour la porte. On va voir ce que ça donne comme ça.
En termes de distanciation, c'est tout ça qu'il faut regarder là sur la terrasse.
A priori, la jauge pour les tables, c'est 6 couverts maximum. Quand on a une table de 6, c'est bien. Mais quand on a 3 tables de 2, c'est plus du tout le même encombrement.
C'est plus restaurateur, là. Vous êtes ces géomètres, quoi.
Quand il faut dissocier les tables, on n'a pas toujours la possibilité de mettre un mètre entre 3 tables de 2.
Julie, de revoir un petit peu ces tables, là, ressortir tout ça, ça...
C'est sympa, ça fait plaisir. Le rouge et le soleil, ça fonctionne bien.
Vous voyez reprendre vos marques, là, ou c'est...
Ah oui, oui. On connaît nos pavés.
S'il pleut, là, on voit, on est sous la bâche. c'est bon, on peut manger quand même, tout est bon.
Ouais, c'est une petite pluie là, hein, parce qu'il y a des parties de la terrasse où on pourra pas manger. Hein.
Mais bon, ça fait un an qu'on attend le resto, à un moment donné, ouais, voilà, on le prend.
Ouais, les Anglais, ils ont bien allé boire des pintes par 4 degrés, hein, donc on pourra manger une andouillette ou une quenelle s'il pleut, hein, ça sera réconfortant.
Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, elle sera bien là dans quelques jours. La terrasse du restaurant Les Fingles reste maintenant à peaufiner la préparation des plats. Rendez-vous donc très vite dans des cuisines en plein redémarrage de ce bouchon lyonnais.
Le reportage de Raphaël Vantard à Lyon pour RTL. On le sent impatient, notre correspondant.
Impatient, ouais, les quenelles, c'est partout les temps. Hein, il n'est pas le seul. En football, pas de Ligue 1 ce samedi à Nice. En revanche, 38e et dernière journée de Ligue 2.
Aucun suspense pour Troyes, qui changera bien de division l'année prochaine, puisque le club est premier au classement. Pour Clermont-Ferrand, sauf grosse surprise, ça devrait également être une sacrée année. Les Auvergnats n'ont besoin que d'un seul petit point face à Caen ce soir. Être en Ligue 1, ce serait une première dans l'histoire du club. Et sur place, Guillaume Frixon, on a un peu de mal à réaliser.
Cette joie, c'était jeudi matin, où près de 150 supporters ont été exceptionnellement invités à assister à l'entraînement public du Clermont Foot. Un moment de partage et de fête, encore non officiel, mais qu'importe. Antoine, abonné au stade, est aux anges.
Oui, c'est irréel et ça sera encore plus réaliste samedi soir où on pourra vraiment fêter ça.
On a hâte.
Ah ben on a hâte, hein, le maillot il sera déjà acheté, il va être précommandé dès possible. Le maillot sera précommandé avec le badge de Ligue 1.
Hakim Zedatka, le latéral droit de Clermont, a connu 6 divisions en 6 ans. Aujourd'hui, il aperçoit la Ligue 1. Là aussi, c'est comme dans un rêve.
On réalise pas qu'on est à deux doigts de faire un truc de foot, déjà pour tous les gens qui nous soutiennent. Pour toute une région, mais c'est vrai qu'on ne réalise pas aussi tant qu'on n'y est pas et que le calendrier 2021-2022 est sorti.
Alors pour ce soir, Clermont a prévenu, ils joueront contre Caen pour gagner et pour fêter pleinement leur future arrivée en Ligue 1.
On en parlera évidemment demain, le reportage de Guillaume Frixon à Clermont-Ferrand pour RTL. Coup d'envoi de tous les matchs de Ligue 2 ce soir à 20h. Et justement, n'oubliez pas le rendez-vous d'abord de 18h30. On refait le match avec Philippe Sanfourche. Et juste après, RTL Foot de 20h à 22h avec Eric Silvestro, Xavier Domergue et Giovanni Castaldi. Ce n'est que sa troisième participation en IndyCar et déjà une première pole position pour Romain Grosjean. Le pilote français sera premier sur la ligne de départ tout à l'heure au Grand Prix d'Indianapolis.
Absolument. Agnès Bonfillon vous a informé. Vous avez tout, absolument tout sur l'appli RTL. À tout à l'heure, Agnès, 9h sur RTL pour toute l'actu. On revient au ballon rond, au football, parce que c'est le rendez-vous du samedi matin avec un pari sur toute l'actualité.